Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir et merci d'être toujours fidèle à cette émission Club de la Presse. La situation à l'est de la RDC commence par inquiéter la sous-région de l'Afrique australe. Cette semaine, le conflit a pris alors une autre tenue. On dénombre plus de 100 morts et environ 1000 blessés. La communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, a déployé une force multinationale composée de soldats sud-africains, tanzaniens et malawites dans l'est de la République démocratique du Congo RDC. Un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'organisation est prévu ce vendredi 31 janvier à Harare, au Zimbabwe, pour évoquer la situation au nord Kivu et au sud Kivu. Nous parlerons du sujet dans cette émission Club de la Presse avec nos confrères en studio avec moi. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité de notre pays. Bien sûr, dans cette émission de ce vendredi 31 janvier 2025. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Vito Bitomega est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapao. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, je vous le disais, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi, du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, l'équipe, alors de vendredi, est déjà en place. Gabin Adjaro, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de la meilleure radio Canal FM. Bonjour à tous les Togolais du Togo profond et surtout à Monsieur Damtar qui est le chef un service de la division activités sociales et environnementales au central solaire de Blita.
J'aime bien quand tu réponds à mon bonjour par cette énergie très forte. Je sais pas, tu puises vraiment cette énergie d'où?
Ah, c'est pas l'espoir. Quand on vit, on a de l'espoir et en plus il y a pas de bien en plus que la santé. Puisqu'on a la santé, on glorifie Dieu, on rend grâce pour tout ce qu'il nous fait.
C'est l'essentiel.
Le reste viendra après.
Tout à fait, le reste viendra après. Et tant que nous avons la santé, on doit toujours remercier le ciel, le Tout-Puissant pour cela, parce que c'est une grâce.
Ah oui, et merci beaucoup aussi pour l'invitation. Merci beaucoup. Pour l'invitation.
Merci d'avoir accepté aussi l'invitation, parce que une chose est d'envoyer l'invitation et l'autre c'est de répondre également à cette invitation. Ah oui. Merci surtout pour la disponibilité.
Merci beaucoup.
Firmé Teko Agbo qui a montré aussi sa disponibilité et c'est lui aussi l'un des fidèles de cette émission. Firmé, bonjour.
Bonjour Pascal Lousseau, merci de m'avoir invité.
J'espère que tu vas bien.
Ouais, je vais bien, par la grâce de Dieu. Donc nous sommes encore là.
D'accord.
Pour servir, comme j'ai l'habitude de le dire, on n'est pas journaliste pour soi. On n'est pas journaliste pour soi, on est journaliste pour les autres. On est appelé à servir. Donc, quand on nous appelle, c'est une obligation de répondre. Parce que vous n'avez pas de journaliste pour votre grand-mère ou pour vos parents. C'est pour les autres que vous avez été formés et vous êtes appelé à les servir régulièrement. Donc, nous sommes là par la grâce de Dieu. Et je sais qu'avec cette grâce, nous allons bien servir.
D'accord, nous allons bien servir.
Essayer d'être le plus objectif possible.
C'est ça l'essentiel, essayer d'être le plus objectif possible, même si à un moment donné, l'objectivité est devenue une denrée rare, mais il faudrait quand même qu'on continue par être objectif dans nos analyses et tout, c'est très important.
Oui, bien évidemment, on essaie, on nous le dit dans les principes du journalisme, on nous le réitère tout le temps, même si c'est, quelquefois c'est difficile, parce que nous sommes des humains. nous avons le sang, nous avons la chair humaine, donc il est quelquefois difficile de se départir de l'objectivité, mais chaque fois nous prions que nous ayons toujours, que Dieu nous aide bien sûr à garder cette objectivité afin de véritablement servir, parce que l'objectif c'est de bien servir, c'est de commenter, de donner le commentaire le plus objectif possible, c'est de donner l'analyse la plus objective possible pour que ceux-là qui nous écoutent avec passion, avec dévotion, avec dévouement, avec beaucoup d'intelligence, puissent être bien servis et que cela leur soit utile et puis qu'ils puissent l'utiliser à bon escient. Et comme vous le savez, nous sommes toujours en pleine campagne, c'est-à-dire avec notre centre, avec le nouveau projet que nous avons lancé depuis le 6 janvier dernier, la citoyenneté sur les nouvelles institutions de la 5e République. Cette semaine, nous avons encore sorti un article de la Constitution, l'article 35 de la Constitution du 6 mai 2024, qui dit, moi je ne vais pas lire tout l'article, mais qui dit le président de la République, il n'est élu par le Parlement réuni en congrès. Bon, pourquoi on a sorti cet article cette semaine? Parce que nous savons que nous sommes dans les sénatoriales et la campagne est lancée. On aura besoin du Sénat pour avoir le président de la République. Quand on va faire ces élections-là, les deux tiers seront élus par les collectivités territoriales. Le un tiers sera nommé par le président de la République. C'est un article qui est dans la Constitution. Un article qui s'inspire de la 4e République, surtout principalement l'article 52. Et donc, dans les prochains jours, nous aurons le Sénat en entier et le Sénat et l'Assemblée nationale se réuniront en congrès. Et c'est là où ils éliront le prochain président de la République, l'article 35.
D'accord, merci beaucoup. Quand on parlait de l'objectivité, tout de suite, je voudrais quand même rappeler aussi ce principe de base du journalisme qui dit que le fait est sacré, mais le commentaire est libre. C'est très important. Le fait est bien sacré et le commentaire est libre. Donc, tenons-nous à ce principe d'habitude pour rester surtout dans l'objectivité, dans nos commentaires et dans nos analyses. Dans nos décryptages, n'est-ce pas, Thierry Afanoukoui, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour au président.
C'est celui que j'appelle affectueusement honorable.
Ah oui, ben honorabilité. Ben, il faut dire que le rang des honorables va être encore gonflé.
Tout à fait.
Je ne sais pas les sénateurs qu'on aura, comme Fumien vient de le dire, qu'on aura dans quelques jours. Je ne sais pas si c'est honorable ou vénérable.
C'est 15 déjà.
Où c'est vénérable, on va les appeler, on attend qu'ils siègent et on saura.
Ce sont des sénateurs.
On saura quelle distinction leur attribuer.
Mais des fois, il nous arrive alors d'attribuer des titres à des gens, c'est finalement des titres qui ne méritent pas forcément.
Oui, tout à fait. Mais vous savez, l'homme aime ce qu'on puisse l'élever, si je peux parler ainsi. Et donc, c'est tout cela qui fait que des fois, des députés réclament avec insistance à ce qu'ils soient appelés honorables. Hein. À César, ce qui est à César. C'est vrai, nous tous, nous participons à la construction de ce pays, mais nous ne travaillons pas au même degré ou nous ne sommes pas appelés aux mêmes responsabilités, à l'honneur.
À tout seigneur, tout honneur.
Voilà.
D'accord. Merci beaucoup Thierry d'avoir répondu à notre invitation. Autre confrère qui a répondu justement à notre invitation, c'est Germain Pouli. Germain, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM. Bonjour à tous les confrères ici présents.
J'espère que vous allez bien.
Grâce à Dieu.
Dieu merci. Alors, et ça fait plaisir de vous avoir aussi dans ce studio et de faire le débat, de mener le débat ensemble. Et je pense que c'est une grande contribution surtout pour le débat contradictoire dans notre pays. C'est très important. Alors, on commence cette émission avec ce sujet à la une à l'heure du jour. Le journal Le Populiste titre à sa une ce matin: TikTok, inconscience, incivisme, dépravation, diffamation, menace, entre recadrage et suppression, le gouvernement a le choix. Alors, c'est un article, bien sûr, sur les dérapages qui sont constatés ces derniers temps. Alors, sur le réseau social TikTok, vous avez toujours écho de cela. Et Gabin, c'est vrai que à un moment donné, même d'ailleurs sous d'autres cieux, il y a des gens qui parlent alors de la suppression. Il y a également d'autres qui parlent alors de recadrage. Et est-ce que le journal ne fait pas bien quand même d'interpeller les gouvernants sur cette question?
Oui, le journal fait bien d'interpeller le gouvernement, surtout le ministère de la Communication, par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, surtout du TikTok dans notre pays, parce qu'à un moment donné, il y a une sorte de libertinage. Tout le monde s'improvise communicateur aujourd'hui, au point où quand on a une petite communauté à qui on peut s'adresser, on distille des fausses informations premièrement, et ensuite des choses pas trop saines, des choses obscènes sur le réseau social TikTok. C'est très difficile d'arriver quand même à contrecarrer ces gens-là, parce que bon, ce sont des individus qui se cachent derrière leur portable et qui sont à des lieux peut-être qu'on ne connaît pas et qui font ce genre de choses. La meilleure des choses, c'est d'arriver quand même à cadrer. Comment arriver à cadrer? Il y a des techniciens autres là qui peuvent arriver à faire ça, parce que vous savez, tout outil est bon ou mauvais compte tenu de l'utilisateur. TikTok est bon quand tu suis sur ce réseau social là, et quand tu as de ces contenus, de très bons contenus, de bonnes informations. Par exemple, sur TikTok, il y a les meilleures chaînes, les meilleures chaînes d'information, les meilleures chaînes TV et autres là. Quand bon, aujourd'hui, c'est difficile d'arriver à la maison et puis d'allumer la télé, mais sur TikTok, tu as l'information à temps réel et tout. Quand tu découvres comment les gens fabriquent des voitures, quand on t'apprend comment enlever une tache sur les habits et autres là. Donc, à un moment donné, il faut savoir que c'est le personnage qui fait que bon, le réseau social est bon ou mauvais. Maintenant, il faut arriver quand même à contrecarrer ces gens-là qui l'utilisent à mauvais escient, et il n'y a pas meilleure manière, une meilleure façon d'arriver à cadrer ces gens-là que la punition. Parce que quand il n'y a pas la punition et quand il n'y a pas d'exemplarité à ce niveau, les gens font ce qu'ils veulent, parce que bon, ils se disent il n'y a personne qui va m'interdire ce que je fais. Les gens disent c'est mon méga, c'est mon portable, c'est mon iPhone, c'est ma tablette, j'en fais ce que je veux. Alors que ce que tu distilles dans la population, et puis il y a un terme qu'ils utilisent la plupart du temps, que ce ne sont pas eux qui vont éduquer les enfants. Alors que quand tu distilles une information dans la société, quand tu fais des pratiques obscènes sur ce réseau social avec un enfant, voit ça, à un moment donné, ça peut créer une certaine métamorphose ou bien un changement dans la conception primaire de l'enfant. Donc, à un moment donné, il y a, je peux dire, corruption de mineurs dans cette affaire-là. Donc, ils ne connaissent pas réellement le sens de ce qu'ils font. Pour eux, ils se disent, bon, c'est mon téléphone, c'est mon méga, moi-même, je paie mon wifi par mois, donc il n'y a personne qui puisse me dire ce que je dois faire. Mais nous sommes dans un pays régi par la loi, et l'État a une ambition, c'est-à-dire d'arriver à former de bons citoyens qui pourront construire le pays demain, et on ne peut pas permettre à ce que des individus, moi je dirais mal intentionnés, viennent sur les réseaux sociaux pour détourner l'intention des enfants. D'accord. On ne peut pas détourner que l'intention des enfants, mais aussi des adultes, parce qu'il y a certains adultes qui suivent certaines choses sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce que moi je constate la plupart du temps, c'est qu'il y a de ces filles-là, bon, qui n'ont même pas fait CM2, qui sont devenus des chimistes, elles-mêmes s'appellent cosmétologues, qui détruisent la peau des gens et autres là. J'interpelle aussi l'État à pouvoir superviser ces gens-là, parce que il n'y a pas d'analyse qui sont faites en amont pour qu'on sache que bon, ce produit-là que les gens utilisent, c'est bon. Les gens sont dans leur chambre, ils mélangent des produits avec des choses pas possibles, des acides et autres.
Finalement, des spécialistes, alors de voilà, ce qu'on ne connaît pas.
De ce qu'on ne connaît pas. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut recadrer les choses pour qu'on en fasse bon usage. Et d'accord, surtout que les gens sachent qu'il y a un bâton derrière. Quand je ferai mal, il y aura une punition, et ça va servir d'exemple aux autres.
D'accord, merci. Alors, Gerbin, c'est vrai qu'aujourd'hui, Gabin l'a dit, on a aussi de bonnes choses alors sur ces réseaux sociaux, mais également il y a des dépravations et qu'on constate un peu partout, mais ça devient en quelque sorte un couteau à double tranchant.
Oui, c'est un couteau à double tranchant. J'allais même dire que c'est exactement un couteau. Vous savez que le couteau, on peut l'utiliser pour faire la cuisine, on peut l'utiliser également pour poignarder quelqu'un et lui enlever la vie. Donc, c'est comme tout ce qu'il y a comme innovation, technologie. Il faut beaucoup de responsabilités, d'éthique dans l'usage donc de tous ces instruments-là qui sont mis à notre disposition. Maintenant, c'est vrai qu'on assiste à des cas assez graves, de dépravation, de la diffamation, de l'intoxication. Et on a envie comme de dire, ben, il faut interdire, mais au même moment, et on voit que certains qui s'en servent avec responsabilité font des affaires avec ça, font la promotion de leurs activités. Et on a vu un peu l'influence de TikTok dans les élections aujourd'hui. Et aux États-Unis, quand les médias ont fermé leurs portes à Donald Trump, il n'a pas hésité à passer par TikTok, par X et les réseaux sociaux. Donc ça dit que ce sont des outils qui aident. Mais malheureusement, c'est comme ce couteau à double tranchant dont vous parlez. Parfois, ils sont mal utilisés, donc il faut vraiment de la sensibilisation. Il faut également de la répression, mais avant, il faut beaucoup plus sensibiliser. Et aujourd'hui, vous avez vu, le plus grand pays du monde a interdit TikTok, ça n'a pas duré. Le temps que Donald Trump arrive, il a réactivé TikTok, et donc... on sait que ça va être difficile de combattre un tel outil qui a une adhésion populaire assez énorme à travers tous les pays au monde. Certains pays quand même l'ont interdit récemment. Je crois que c'est l'Australie ou la Norvège. Interdit. Mais je crois que quand on l'interdit, c'est beaucoup plus pour des raisons politiques, parce qu'à l'origine, c'est un réseau social qui vient de la Chine.
Oui.
Et donc, les gens ont l'impression que la Chine s'en sert pour faire de l'ingérence dans certains pays. Vous avez vu même en Europe de l'Est, la dernière élection, il y a un candidat qu'on n'attendait pas au deuxième tour et qui est sorti premier même, et qui a fait essentiellement campagne sur TikTok, ce qui fait qu'aujourd'hui, TikTok n'a pas que des amis, parfois pour de bonnes raisons, mais quelquefois... pour des raisons beaucoup plus politiques ou géostratégiques. Mais la réalité, là, c'est un instrument assez fabuleux, qui est assez intéressant, qui accroche, qui plaît, qui est largement utilisé. Et donc aujourd'hui, il faut beaucoup plus travailler pour sensibiliser les populations à un meilleur usage de cet outil.
D'accord. Alors Thierry, est-ce qu'on n'a pas, c'est vrai, Germain le touchait ce point tout de suite concernant le fait que l'origine même d'ailleurs de TikTok, c'est la Chine. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on suit les Africains sur ce réseau social, finalement, les Africains ont adopté en quelque sorte alors ce réseau social de telle enseigne qu'on pourra dire qu'ils se l'ont approprié?
Ce ne sont pas seulement les Africains qui se sont appropriés le réseau social TikTok. Je crois que partout dans le monde, ce réseau est adopté, surtout que elle mobilise plus la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes qui sont présents sur ce réseau social-là. Vous avez vu Donald Trump, je crois, jamais l'a effleuré tantôt quand il battait campagne et qu'il voulait intéresser la jeunesse. Son fils, Barron, l'a conseillé d'être présent sur ce réseau-là et ça a porté ses fruits. Donc, c'est un réseau très, très, très utilisé.
Et très dynamique.
Et très dynamique également. C'est un réseau très intéressant. C'est de courtes vidéos qui passent avec différentes sortes de messages. Maintenant, quand il s'agit de veiller ou de surveiller ce qui se fait là-dessus, vous savez, dans la vie, tout est question de choix. Donc, à chacun de savoir ce qu'il cherche donc sur ce réseau-là. Aujourd'hui, quand il s'est agi de mettre fin à ce réseau social, à ce réseau social là, au niveau des États-Unis ou encore au niveau de Norvège, vous avez vu comment il y a eu pas mal de réactions, parce que c'est un outil qui permet à certains de manger, qui permet à certains de faire leurs affaires. Donc ce n'est pas tout ce qui est déversé donc sur ce réseau social là qui est mauvais, qui est mal. Donc c'est à nous de faire la part des choses. Maintenant, ce qu'on comprend aussi beaucoup plus dans les pays par rapport aux réseaux sociaux dans leur globalité, c'est que l'État n'intervient que quand le pouvoir est menacé. Malheureusement, c'est ça la réalité, alors que l'État est là, comme l'a si bien dit mon cher ami Adjaro, l'État a ce rôle de régulateur. Malheureusement, l'État ne régule ou n'intervient que quand les institutions où le pouvoir en place est menacé. Ça fait que le contrôle ne suit pas. Le contrôle ne suit pas. Et même par rapport à la régulation, ça serait très, très, très difficile également, parce que on ne peut que avoir des restrictions. On ne peut que avoir des restrictions, mais on ne peut pas contrôler totalement ces réseaux sociaux-là. Vous avez vu, même par rapport aux médias en ligne, qui sont les nouveaux médias. Et c'est difficile, hein, même on peut prendre tout un arsenal de tests juridiques, c'est très difficile. Quand on nous demandait, nous au Togo, de domicilier nos médias en ligne sur le point TG, ça nous arrachait le sourire, parce qu'on sait que il y a mille moyens de continuer par travailler.
D'accord. Oui, finalement, est-ce qu'on ne peut plus aujourd'hui se passer alors de ce réseau social, et de telle enseigne que finalement il faut plutôt être plus conscient et devant cela dans l'usage plutôt alors de ce réseau social?
Bon, moi je ne trouve pas ça, excusez-moi, mais extraordinaire, hein, parce que là où je trouve TikTok extraordinaire, parce que c'est le dynamisme, la rapidité. De petites des vidéos qui peuvent facilement passer, et puis on peut faire du direct. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur TikTok?
Mais ça rassemble beaucoup de monde aujourd'hui.
Ouais. Mais la question qu'on peut retrouver sur TikTok qu'on ne retrouve pas sur WhatsApp. Par exemple, quand on parle de dépravation, il y a des groupes dans lesquels on a des dépravations, on a des images extraordinaires. Vous comprenez?
Non, mais la spécificité de TikTok aujourd'hui, c'est vrai que c'est dynamique, mais c'est des courtes vidéos, vous, oui, avec un message bien précis, oui, que vous recevez.
Oui, bien évidemment, sur WhatsApp, il y a ça. Il y a des groupes où vous avez toutes les images possibles. Vous êtes de petites vidéos, vous êtes des vidéos pas possibles. On parle de diffamation. Sur WhatsApp, on diffame. On parle de santé, on dit des gens concoctent des produits, mélangent des choses, tout ça. Sur WhatsApp, il y a des groupes qui parlent de santé, on fait tout ça. Vous imaginez, dans ce pays, il y a des gens qui ont été poursuivis sur la base des émissions qu'ils ont tournées, qu'on a publiées sur YouTube. Mais c'était pas sur TikTok. Donc, il n'y a pas grande différence. La différence, c'est que c'est dynamique, c'est de petites vidéos. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il y a deux choses. Soit on décide de sensibiliser, soit on ferme. C'est tout. On sensibilise, on appelle les gens à plus de moralité, à plus de responsabilité. Moi, je l'ai fait par exemple l'autre fois avec mon association. On était allé voir les conducteurs routiers, on leur a dit, il y a aujourd'hui une loi sur le numérique. Si vous diffamez les gens sur les réseaux sociaux, vous êtes poursuivis. Non, c'est ce qu'on peut faire. On peut que l'État aille dans ce sens. La direction de la formation civique, les associations, les ONG aillent dans ce sens-là, là, pour appeler les gens à plus de responsabilité. Mais est-ce qu'on peut réussir ça? Parce que quand quelqu'un publie une vidéo obscène, si ça n'engage nullement la vie privée de X ou Y, il ne sera pas poursuivi. On ne peut pas le poursuivre.
Non, ça engage la communauté, ça engage la société.
Mais non, qui va poursuivre? Le problème, regardez-vous, vous dites le ministère public. Vous avez combien de vidéos on a publiées dans ce pays? Vous savez combien d'images de ce genre on a publiées dans ce monde? dans ce monde, dans tous les pays du monde. Donc, c'est des choses qui existent. Qu'on peut dire, ce qu'on peut faire de façon très simple, c'est appeler les gens plus de responsabilité, à plus de moralité. Et aussi brandir, que l'État brandisse la loi sur le numérique aujourd'hui. Vous diffamez sur les réseaux sociaux, vous envoyez telles images, vous êtes poursuivable.
D'accord. Alors, on va quitter le sujet.
Oui, mais vous permettez que je vous lance rapidement. Le problème avec TikTok, c'est que vous ne choisissez pas forcément les images ou les contenus qui viennent. Vous défilez, vous tombez là-dessus.
Voilà. Mais là, vous choisissez des thématiques.
Oui,
voilà,
au niveau de l'inscription.
Oui.
Mais sauf que
c'est pas tout le monde qui maîtrise ça.
Voilà, hein? Sauf que vous ne maîtrisez pas forcément tout. Donc vous êtes là, ça tombe sur vous.
Oui.
Que ça soit bon ou pas, ça tombe sur vous. Vous refusez de voir au moins quelques secondes, vous tombez sur ça avant de se rendre compte que ce n'est pas bon pour vous.
Voilà.
Et vous passez à autre chose. C'est ça le danger avec ce réseau social.
D'accord. Alors, on va quitter le sujet. Oui, lui, il a utilisé quand même les réseaux sociaux pour son retrait, hein, au niveau alors du mouvement pour la libération la libération du Togo. Je veux bien parler alors de l'ancien ministre de l'Intérieur, bien sûr, Akinaye Sobokan. Et il y a des journaux qui sont revenus alors sur le sujet ce matin. Je voudrais bien sûr qu'on en parle. Il y a le journal Le Canard indépendant qui écrit Freedom Togo MLN Maître Boko capitule le pourquoi du comment. Et autre journal qui en parle, c'est le journal Togo Matin. Le journal Togo Matin qui écrit Freedom Togo MLN, la désunion, l'âme véritable de l'opposition togolaise. Encore autre journal, c'est bien le journal Liberté. Le journal Liberté qui revient sur le sujet et écrit accusation et contre-accusation. Comment Freedom Togo MNL risque d'imploser? Pourquoi le prix? Enfin, là, c'est plutôt un autre titre, bien sûr, hein, qui est sur le sujet. Alors, Germain, vous avez aussi appris ce retrait de l'ancien ministre Akinaye Sobokan alors de ce mouvement, un mouvement qui est créé pratiquement 6 mois après. On retrouve quand même ce retrait du vice-président du mouvement. Alors, est-ce que quelle analyse vous faites d'abord alors de ce retrait?
Bon, il faut dire que j'ai pas beaucoup suivi l'information, tout simplement parce que c'est un mouvement de plus, hein, en termes de rassemblement, et surtout pour des gens qui ne vivent pas sur le territoire national, qui sont en France et qui se disent opposants et qui veulent libérer le Togo depuis la France. Ce n'était même pas bien crédible, hein, comme alternative dès le départ. Maintenant, ce qui arrive, c'est que le colonel Boko, maître François Boko désormais, donc, il dit que le mouvement est infiltré par le régime togolais et qu'il se passe des choses par rapport à la stratégie à adopter, tout ça, il y a des incompréhensions. Bon, il s'est retiré, ils ne sont que 3. Il en reste 2. Est-ce qu'ils vont poursuivre la route? On ne sait pas, mais c'était pas un mouvement sur lequel les Togolais comptaient véritablement. Je crois que ils ont voulu surfer sur l'affaiblissement de l'opposition interne. Après les dernières élections, on s'est rendu compte que l'opposition qui est sur le plan national a subi un revers électoral assez difficile à supporter. Donc, ils ont eu l'idée de monter ça. Alors que pour faire l'opposition, il faut être sur le terrain. Et c'est pas facile d'être opposant. Ceux qui le sont et qui vivent au Togo, je crois que c'est plutôt eux qu'il faut suivre que ceux-là. Ils sont à l'extérieur, qui sont coupés de toute réalité politique interne et qui se font beaucoup plus visibles sur les réseaux sociaux, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Donc, pour moi, c'était quand même bien parti pour ne rien donner. Maintenant que le mouvement ne tient même pas une année, on ne sait pas les 2 autres larrons, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont maintenir ce qui est pratiquement, bon, voilà, un échec et continuer, on n'en sait rien, mais je pense que ce sont des citoyens togolais qui sont à l'extérieur et qui portent une autre vision, comme je l'ai dit, ils auraient dû plutôt travailler avec l'opposition en interne, s'ils tiennent vraiment à faire de l'opposition. ils n'ont qu'à soutenir leurs collègues de l'opposition togolaise. C'est la meilleure façon. Et ils sont en Occident, peut-être ils peuvent mobiliser des moyens pour aider ceux qui travaillent sur le terrain plutôt que de promettre aux Togolais une certaine libération à partir de la France. Bon, je ne sais pas s'ils comptent sur la France pour faire leur libération, mais je crois qu'aujourd'hui ça n'a pas pris. Les gens peut-être cherchent des arguments pour vite s'éclipser de cette affaire-là. Bon, moi c'est l'analyse que je fais, puisque je n'ai jamais été véritablement intéressé par ce projet. Je n'y croyais pas. Je me dis, on ne peut pas faire ce qu'ils veulent faire de l'extérieur de façon crédible, et ça, la preuve est là aujourd'hui. Moins d'un an après la création, ben, on assiste à la, pratiquement à la dislocation de ce mouvement-là.
D'accord. Oui, Gabin, est-ce que le journal Togo Matin n'a-t-il pas raison de dire que la désunion est l'arme véritable alors de l'opposition togolaise?
Non, vous savez, les partis politiques, chacun de ces partis-là ont leur idéologie. Hein, moi, j'ai toujours dit que les histoires de unicité, bon, union de l'opposition, c'est un faux problème, puisqu'ils l'ont déjà fait. Ils l'ont fait à maintes reprises, ça n'a pas marché. Et dans aucun pays du monde, on ne peut pas forcer les gens à se mettre ensemble pour quoi que ce soit. Si la population décide que, bon, voilà une personne lambda qui sort de nulle part, je vais aller voter pour lui pour qu'il devienne président, il n'y a pas de souci, on va voter pour lui. Maintenant, quand l'opposition même va voir que, bon, pour, à l'instant T, on a besoin d'une unicité d'action, bon, ils vont se mettre ensemble. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays. On a vu les Diomaye Faye Sonko au Sénégal. Ben, c'était pas leur parti qui était le plus ancien sur le territoire national, mais ils ont été plébiscités pour venir à la tête du pays. Donc, à un moment donné, les histoires d'union de l'opposition et tout ça, moi, je bats ça hein, du revers de la main. Mais il faut reconnaître que moi, je l'ai déjà dit, depuis la création de ce mouvement-là, que ça n'irait pas loin. Je l'avais dit, beaucoup m'ont critiqué, mais je savais très bien que ça n'irait pas loin, d'autant plus que...
Alors, qu'est-ce que vous avez vu au début qui vous a aussi confirmé que ça n'ira pas loin?
Lors de la création de ce mouvement-là, les leaders, à savoir M. Kofi Amnian et Akile Essoboko, Maître Akile Essoboko, et ils se sont beaucoup plus.
Et Jean-Sylvanus Olympio.
Oui, bon, encore un Olympio, hein. C'est lui d'ailleurs dont parle Monsieur Maître Akile Essoboko, qui a infiltré le mouvement. Maintenant, moi je l'ai déjà dit et
comment infiltrer le mouvement tandis qu'il est déjà membre fondateur de
ce
mouvement?
Oui, bien sûr que c'est lui qui distille les informations vers le gouvernement togolais, et ainsi de suite. C'est selon Maître Akile Essoboko. Maintenant. Lors de la création de ce mouvement-là, ils se sont beaucoup plus acharnés sur l'opposition interne. Ils ont traité l'opposition interne de tous les noms, d'oiseaux, que non, ce ne sont pas des gens qui sont assez conséquents, qu'ils ont véritablement échoué, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme si ils ne connaissaient pas les réalités du Togo, comme si ils pensent qu'être opposant, c'est une chose tellement facile qu'on peut être à l'extérieur et être opposant. Les gens qui sont ici, là, ce sont de véritables opposants. Ce sont des gens qui ont eu à faire leur lutte depuis belle lurette, même si à un moment donné, on peut leur dire que, bon, ils ont manqué hein, de stratégie à un certain moment donné. On ne peut pas leur enlever le fait que ce sont de véritables combattants. Mais eux, vous êtes à l'extérieur, vous combattez ceux qui sont à l'intérieur, au lieu de les soutenir pour atteindre un objectif commun, entre griffes, que comme vous le dites. Moi, j'ai été surpris par leur sortie, surtout de M. Kofi Amnian, qui a traité l'opposition interne de tous les noms, qui les a traités d'échecs et tout, alors que lui-même, il a essayé de participer aux élections, et si ça n'a pas marché, après, il est reparti à Paris. Donc, à un moment donné, il faut être conséquent. Je ne suis pas sûr que les Togolais avaient véritablement mis leur foi sur ce mouvement-là, et... la dislocation, ça ne va rien dire aux Togolais aussi. La seule chose que ça a pu apporter, c'est que à un moment donné, bon, par son intervention sur une chaîne nationale ici, on a eu à suspendre un journaliste de ses fonctions pendant 3 mois. Donc, Maître Akile Essoboko, ce n'est pas sa première fois qu'il démissionne. Hein, il avait déjà démissionné du RPT, du et du gouvernement entre-temps. Il est parti en France, et il fait son petit bonhomme de chemin. Sauf que je pense qu'il oublie que la politique est révolutionnée. Ce n'est plus la même chose actuellement. Donc à un moment donné, si tu es au sein d'un parti politique, c'est la même chose qu'on reproche à certains qui sont des membres des partis politiques ici. Hein. Si tu es dans un mouvement et que tu constates qu'il y a problème, il faut s'asseoir et régler le problème. On ne peut pas être dans un mouvement et puis, dès qu'il y a un petit problème, on sort sur les médias, on démissionne, tu vas encore recréer un autre mouvement après, tu vas encore démissionner. Ben, quand on est une personne assez sage, on règle les problèmes et on trouve des solutions. Mais rester là à critiquer le mouvement, un mouvement que toi-même, tu as créé avec M. Kofi Annan, si on me dit que des têtes blanches comme ça ne pourront pas arriver à trouver des solutions à leurs problèmes, un mouvement de trois personnes, ils n'arrivent pas à trouver des problèmes, comment pourront-ils sauver les Togolais? Encore que ce qu'ils appellent lutte aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. La lutte est devenue politique. Avant, c'était beaucoup plus une amitié entre les gouverneurs et puis les trucs là. Mais aujourd'hui, il y a une certaine vertu, que ce soit au sein. Mais même si les partis politiques gardent leur ligne, hein, mais aujourd'hui, il y a une certaine ouverture au sein des partis politiques et de l'opposition et du pouvoir. Donc, à un moment donné, je pense que Maître Akile et son Boko et son mouvement,
merci.
C'était juste un mouvement de plus, comme l'a dit Germain.
D'accord. Alors, Thierry, est-ce que vous avez aussi l'impression que c'était vraiment un mouvement de plus?
Avant de répondre à votre question, je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez le péché mignon de l'opposition togolaise?
C'est quoi?
C'est la division.
Vous l'avez écrit dans votre article. J'ai vu quand même beaucoup de commentaires autour de cela.
Tout à fait. Et ça a toujours arrangé le pouvoir de Lomé. Et le pouvoir de Lomé l'utilise aisément. Mais les nôtres, en tout cas ceux qui combattent ce pouvoir-là, n'ont jamais compris que il est temps qu'ils puissent mettre de leur côté les égaux afin de mener à bien cette lutte dans laquelle ils se sont engagés. Alors, je regrette aujourd'hui qu'à cause de ce beau cas-là, notre confrère Joachim a été sanctionné pour 3 mois pour lui avoir donné la parole et afin de leur permettre de faire connaître ce mouvement. Un truc créé en juillet 2024. Aujourd'hui, nous sommes en janvier 2025.
Ça n'a pas fait un an.
On quitte le mouvement parce que c'est infiltré. Mais lui, là, de son rang, de sa position de militaire, il ne savait pas le régime, il ne connaissait pas le régime auquel il fait face. Il savait pertinemment que ce régime-là a cette force, a cette capacité-là. Et il devrait en conséquence prendre des dispositions pour que ce qu'il dénonce aujourd'hui n'arrive pas. Mais s'il ne l'a pas fait, lui qui a fait le renseignement, lui qui a fait un parcours...
qui a fait même le régime.
Voilà. Et un parcours brillant en termes militaires. Mais si c'est aujourd'hui, il se rend compte que ce pouvoir-là a cette capacité de nuisance-là, a cette capacité de pénétration, mais ça voudrait dire que il n'est pas la personne indiquée pour parler de l'alternance dans ce pays. Nous sommes dans un pays, je l'ai toujours dit, fortement renseigné. Même quand vous voyez un fou dans la rue, méfiez-vous de ce fou-là. C'est des agents de renseignement. Ah oui? Non, je suis sérieux dans ce que je dis. Mais moi, la dernière fois, j'ai vu un fou rôder autour de ma maison, je dis, mais tiens, toi, fais extrêmement attention.
Et tu l'avais pris
à
l'agent de renseignement.
Ah oui? Mais si Boko n'est pas né de la dernière pluie, ouais. moi je suis surpris. À cause de quelqu'un comme ça, Joachim a été sanctionné pour 3 mois. Et pendant ces 3 mois de sanction-là, Dieu seul sait comment il a vécu
avec sa famille. On était pratiquement la veille d'une rentrée scolaire.
Oui.
Et quand on parle de rentrée scolaire dans ce pays, vous savez tout ce que ça donne comme pression. Non, ces messieurs ne sont pas sérieux. Ces messieurs ne sont pas sérieux.
D'accord.
Non, c'est une déception.
D'accord. Ok.
Alors, quand vous n'êtes pas en mesure de faire face à ce régime-là, donnez les moyens, si vous en avez, à ceux qui sont sur le terrain pour mener le combat. Tout le monde ne peut pas, tout le monde n'est pas Moïse, hein, ou encore Jésus.
Ah oui.
Mais soyez sérieux.
D'accord. Ok, merci beaucoup Thierry. Alors oui, Firmin, mouvement de libération, le mouvement national de libération du Togo, finalement ce mouvement n'a pas besoin d'être libéré.
Il est en train d'être libéré. Il y a un kiki déjà. Donc peut-être les autres vont le suivre. Moi, vous savez, il y a une phrase de Maître Jean Degli que j'ai gardée à la CVJR en 2011. Il disait, quand il était à Paris, il y avait un puissant du régime qui lui avait envoyé une lettre qui disait, quel que soit l'endroit où tu te trouves, Jean Degli, le régime a les bras assez longs pour t'atteindre. Ça veut dire simplement que quand vous êtes au pouvoir, quand vous êtes un pouvoir, vous contrôlez tout.
Et surtout, puis ce n'est pas propre au Togo seul. Hein. Quand vous combattez un pouvoir, préparez-vous.
S'il vous plaît, on laisse Firmin terminer, s'il vous plaît.
Quand vous êtes un pouvoir, vous contrôlez tout. Vous mettez tous les moyens en place pour avoir toutes les informations possibles. Surtout quand des gens qui sont à l'extérieur vous combattent. Depuis l'extérieur, demandez à Guillaume Soro pourquoi il est rentré. Parce qu'il a compris qu'en réalité, il était plus surveillé que quand il était en Côte d'Ivoire. Mais la meilleure des choses, c'est de revenir en Afrique de l'Ouest pour avoir l'esprit un peu plus tranquille. Quand vous êtes au pouvoir, vous avez tous les renseignements. Et puis, l'autre chose que je voudrais faire aborder ou que je voudrais faire observer, c'est quoi? Un mouvement comme ça, François Akila et Soboko, Olympio et qui?
Kofi Amnian.
Mais quand vous voyez le mouvement depuis la création, depuis la première intervention de François Akila et Soboko, moi je disais c'est la fin de ce mouvement. Le langage tenu même par le monsieur, que moi je respectais, parce qu'on dit un diplomate, il a travaillé pour les Nations Unies, il est en France, il est au barreau
de Paris. Un avocat de surcroît.
Moi, j'avais une petite admiration pour lui, mais quand il a fait sa sortie, moi j'ai dit non, c'est la fin. C'est la fin de ce mouvement. Parce que lui-même, il a tué le mouvement le jour-là. C'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'est aperçu qu'en réalité, sa sortie les avait tués. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il fait cette déclaration. Et c'est qu'il n'irait pas loin. Et puis, l'autre chose, vous imaginez, il commet la même erreur que les années 90, que les opposants des années 90. Les gens étaient en France, et ils insultaient sur les Agbibos, les Degli qui étaient sur le terrain, en disant que non, eux là, ils sont nuls, quand ils vont revenir, ils vont regagner le territoire, ils vont faire partie à demain. Alors qu'ils ne maîtrisaient pas le territoire, le terrain sur lequel les autres opposants dansaient. Ils sont revenus, on a vu, et il y a des moments même s'est renforcé. Le régime est devenu encore plus fort qu'avant. Regardez, donc les gens ne comprennent pas ça. Et puis, l'autre chose, il y a une question que j'aime poser à Maître Akila et Soboko. Pourquoi avait-il démissionné du gouvernement togolais en 2005? Quand on était encore jeune, on croyait qu'on l'avait pris pour un saint. Parce qu'il désinguait le régime. Il disait que non, qu'en réalité, si on laissait le processus poursuivre, il y aurait génocide, ainsi de suite, avec tous les renseignements qu'il avait. Mais en réalité, quand vous allez aux informations, c'est du pipeau qui nous avait servi.
D'accord. On va quitter le sujet. On s'intéresse à un autre sujet dans cette semaine. Bien sûr, c'est le mercredi dernier. Bien sûr, on a assisté à ce divorce entre l'AES et la CEDEAO. Mais toujours est-il que pour ce qui concerne le retrait définitif, les modalités continuent puisque la CEDEAO a organisé même une conférence pour donner plus de précision alors sur cette question. Alors là, finalement, on pourrait dire quand même que le divorce est consommé.
Non, comment on dit, c'est une sorte de séparation de corps. Parce que le mari n'est pas d'accord que sa femme quitte. Donc la CEDEAO n'est pas d'accord et elle garde la porte de la maison toujours ouverte en espérant que
la femme revienne.
Donc c'est plutôt une bonne chose que cette attitude de la CEDEAO parce que la CEDEAO a déjà donné du temps à l'AES, mais apparemment ça n'a pas été un temps suffisant. Vous avez vu que en interne, plusieurs manifestants dans les trois pays ont célébré ce divorce. Mais dans la diaspora, vous avez vu aussi plusieurs qui ont manifesté pour appeler leur pays à ne pas quitter. Et la CEDEAO, ça veut dire qu'il n'y a pas un consensus sur ce divorce-là. Les enfants même nés de ce mariage-là ne s'entendent pas sur le comportement des parents. On comprend bien que l'AES avait besoin d'être libre pour livrer son combat contre le terrorisme, pour travailler dans le sens de la souveraineté économique de leurs États. Et donc, la CEDEAO devenait un autre problème que le problème que ce pays avait déjà. Oui. Donc, il fallait se débarrasser des problèmes qu'on peut vite éliminer. Donc, la CEDEAO était un problème, ils s'en sont débarrassés. Mais toujours est-il que quand on prend l'idée même de la CEDEAO qui est une CEDEAO des peuples, je ne pense pas que les populations dans ce pays-là, si on fait un référendum aujourd'hui, vont massivement voter pour le départ. C'est vrai que l'AUS est une alliance qui a été créée prioritairement sur la base des questions sécuritaires, parce qu'il y avait un temps le G5 Sahel qui était là, qui n'était pas efficace. Et ces pays ont pris sur eux de laisser les Occidentaux de côté, les Français, les Américains, de mener la lutte à leur façon, avec la maîtrise qu'ils commencent par avoir un peu de ce combat. Et donc, maintenant, sur les questions d'intégration économique et tout ça, je pense que ces pays ont toujours besoin de la CEDEAO. La CEDEAO a toujours besoin de ces pays-là pour la libre circulation des personnes et des biens. Et donc, la CEDEAO garde espoir que peut-être à la fin de cette lutte-là, on ne sait pas combien de temps ça prendra, dès que ces pays seront économiquement émancipés, dès que le terrorisme sera assez combattu, peut-être que ces pays-là reviendront donc à la maison. C'est l'espoir. Maintenant, vous avez vu aussi qu'en sens inverse, il y a plusieurs pays de la CEDEAO qui ont envie d'adhérer à l'AUS. Quand on prend des pays comme le Ghana et le Togo, ils sont sur la bonne voie pour collaborer étroitement avec l'AUS, pourquoi pas y adhérer, même d'autres pays qui ne sont pas membres de la CEDEAO. Ça veut dire que c'est un ensemble qui est né suite à la crise sécuritaire et aux mauvaises décisions que la CEDEAO a eu à prendre face à ces régimes-là. Et aujourd'hui, je pense que la CEDEAO, si c'était à refaire, elle ne le ferait pas, elle aurait écouté très tôt un président comme le président togolais qui, dès le départ, avait vu la menace venir. Et donc aujourd'hui, on garde quand même espoir que ces peuples qui sont des peuples de la communauté reviendront à la maison un jour.
D'accord. Alors Gabin, c'est vrai, la CEDEAO nourrit toujours l'espoir de voir les trois pays alors de l'AES revenir à la maison. Et, mais au même moment, on se souvient alors de ce discours de Ibrahim Traoré qui nous disait quand même que c'est un chemin de non-retour.
Oui, c'est clair. La CEDEAO est dans une certaine illusion. Elle ne veut pas s'avouer vaincue hein, dans cette histoire-là. Et veut toujours espérer que les trois pays reviennent au sein de l'organisation sous-régionale. Mais je pense que ça sera vain parce que ces pays-là ne vont plus revenir au sein de la CEDEAO puisque le lien a été coupé depuis belle lurette. Déjà, quand ces pays-là parlaient, ils le disaient depuis le début, hein, quand ils ont pris le pouvoir, les trois dirigeants là disaient depuis le début que cette CEDEAO-là a été manipulée, que les prises de décision ne sont pas souveraines et tout. Donc, à un moment donné, ils veulent une certaine autonomie dans la prise de décision pour que, bon, lors de leur réunion des chefs d'État et de gouvernement, qu'il n'y ait pas des représentants de la France, de l'Union européenne, de l'Allemagne, ainsi de suite. Ce qui n'a pas été fait. Ensuite, la CEDEAO, qui n'a pas su mobiliser une force pour aller aider ces pays-là à combattre le terrorisme, a vite fait de trouver les moyens et tout pour pouvoir mobiliser une force en attente pour aller combattre le régime nigérien afin de pouvoir réinstaller un ami, Mohamed Bazoum. Donc, à un moment donné, ces pays-là se sont dit, le protocole additionnel de la CEDEAO prône à ce qu'il y ait un pacte de non-agression entre les pays membres de l'organisation, ce que la CEDEAO a violé. Et il y avait des sanctions que la CEDEAO avait prise, que normalement cette CEDEAO-là ne devait pas prendre, parce que c'est à l'UEMOA de prendre ces sanctions économiques-là. Mais la CEDEAO s'était arrogé ce droit de sanctionner ces pays sur le plan économique, alors que dans les normes, la CEDEAO devait beaucoup plus s'attarder sur des sanctions statutaires, c'est-à-dire ne pas organiser des congrès dans ces pays et dans ces pays-là, ne pas permettre à ce que les dirigeants puissent aller visiter d'autres pays pendant la période de transition, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à un moment donné, ces pays-là se sont dit, ben, la CEDEAO même ne se respecte pas. Et en plus, il y avait un problème de d'exemplarité, parce qu'à un moment donné, il y a des chefs d'État au sein de cette CEDEAO-là qui, notamment, j'en veux pour preuve pour la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui dit que non, vous devez organiser les élections beaucoup plus tôt, et vous devez respecter la démocratie, les principes démocratiques, alors que lui-même, il a modifié la constitution pour faire le premier mandat de la 4e République ou bien de la 3e République en Côte d'Ivoire.
Il avait annoncé même d'ailleurs qu'il n'irait pas aux élections pour un 3e mandat, mais finalement...
Voilà, il avait donné sa parole, oui. Mais finalement, il s'est présenté aujourd'hui, il est encore à liste pour pouvoir briguer un 4e mandat. Donc, à un moment donné, il n'y avait pas véritablement d'exemplarité au sein de la CEDEAO et nuit été la vigilance des Sénégalais. Je suis sûr que Macky Sall aussi allait faire un troisième mandat. Donc, ces dirigeants-là se sont dit, ben, on nous bluffe, on va sortir pour pouvoir premièrement nous concentrer sur la lutte antiterroriste, et vous allez constater que ce sont des pays qui sont allés avec échelonnement de confédération. Ils sont arrivés à une fédération, ils ont mis en place l'AES, ils ont aujourd'hui mobilisé une force de 5000 soldats pour pouvoir lutter contre...
Ils ont annoncé même d'ailleurs un passeport commun.
Un passeport commun, c'est ça même qui a révélé la CEDEAO. Et aujourd'hui, les gens disent que non, est-ce que ces passeports-là seront valables dans d'autres pays? Ben, un passeport, c'est un outil de voyage. C'est comme une carte d'identité. C'est comme tu peux montrer le carnet journal à la frontière et puis passer. C'est comme ça. Et chaque pays doit reconnaître les passeports d'un pays souverain. Donc, à un moment donné, et ces pays-là, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels parmi eux. Quand vous prenez ces pays-là aujourd'hui, ils font partie encore de l'UEMOA. Et l'UEMOA prône quoi? Le principe de la libre circulation des personnes et des biens et l'intégration économique. Vous voyez? Donc, en aucun cas, la CEDEAO ne peut les empêcher de voyager librement.
D'accord.
Et ensuite, ces mêmes pays-là font partie du Conseil de l'Entente. Et en plus, ils ont de très bonnes relations avec les pays. Quand le Ghana aujourd'hui nomme un ministre chargé de l'AES directement, ça veut dire que c'est un espace assez très important pour le Ghana. Je vais finir par là. La Mauritanie a quitté la CEDEAO depuis fort longtemps, mais les citoyens mauritaniens voyagent. Ils voyagent sans problème. Parce que, est-ce que un Mauritanien venant au Togo, il va prendre un visa? Non. Parce qu'il y a cette relation bilatérale-là qui est gardée. Quand un Togolais veut aller en Mauritanie, il ne prend pas de visa. De même que quand un Mauritanien veut voyager dans tout l'espace CEDEAO, il n'y a pas de visa. Donc, à un moment donné,
cela ne s'ouvre pas. Oui, merci. Oui, on a vu des confédérations sur le continent, des alliances sur le continent qui aussi n'ont pas prospéré en tant que telles. Mais est-ce que vous avez l'impression que cette alliance des pays sahéliens va prospérer?
Non, moi je doute fortement. Ça n'ira pas loin. je l'ai tout dit. Je dis parce que la base est faussée. C'est quand vous créez des alliances sur la base des dictatures. Moi je dis ces trois pays, c'est l'AES, c'est l'assemblage des dictatures. C'est un assemblage de dictatures en fait. Donc tous les principes démocratiques sont ou ont disparu de leurs tests, de leurs documents. Donc c'est difficile que ça aille loin. Quand il parle de force et tout ça, c'est une question. En fait, le tout repose sur la liquidité, en fait. Vous avez déjà dit, ils ont des ressources, ils sont riches, ils sont humains riches, ils sont des pays très pauvres. Ils ont des ressources. Attendez, on ne va pas aller prendre de l'or ou du diamant pour manger. Mais le prix de ces produits, vous ne pouvez même pas les fixer à l'international. Ceux qui détiennent les finances du monde, c'est à l'ouest. Vous n'avez rien et vous parlez de souveraineté. Ils sont en train de créer, ils vont créer leur alliance.
C'est difficile. Ils ont déjà créé l'alliance.
Oui, ils ont créé leur alliance. Pourquoi la CEDEAO n'arrive pas à tenir? Parce que c'est une question de moyens. La CEDEAO dépend à 60% de l'aide extérieure. Parce que c'est une question de moyens. Mais la CEDEAO fait partie des meilleures organisations en Afrique. Pourquoi la CEDEAO...
Bon, c'est des aveugles, des bonnes soirées.
Pourquoi la CEDEAO est en train de tempérer. Parce que la CEDEAO ne veut pas prôner la division. Elle considère toujours qu'elle demeure, entre guillemets, le meilleur père de famille. Donc il faut toujours, quand les enfants cherchent à s'agiter, il faut toujours mettre en place des mesures pour pouvoir les ramener à la maison. C'est comme cela. Parce qu'en réalité, ce que la S est en train de faire, elle ne sait pas qu'elle est en train de faire le jeu des Occidentaux. Parce que ce que l'Occident veut, c'est nous diviser davantage. Et la France est en train de réussir. Autant vous êtes désunis, autant la politique internationale marche. On est en train de nous diviser et les gens sont en train d'applaudir des deux mains. Ça ne marchera pas. Ceux qui disent que le Togo va rejoindre la UE, tout ça, moi je dis, c'est dangereux, ces propos. C'est difficile parce que quand vous rejoignez cette association-là aujourd'hui, ou ce qu'on appelle alliance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont nous quitter. Il y a des partenaires sûrement qui vont nous quitter. Ça veut dire que tous les principes démocratiques que nous avons vont disparaître. Alors que, par exemple, le 31 décembre dernier, le président de la République a dit que le Togo va devenir une véritable démocratie parlementaire. Tous les acquis démocratiques, les débats là que nous avons ici aujourd'hui vont disparaître. Donc les gens ne mesurent pas encore ce que nous sommes en train de vivre. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en réalité, qu'on fasse tout pour revenir à la normale dans ces pays.
D'accord, ok. Merci beaucoup, Fébin. Alors, Thierry, moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que ces trois pays de l'AES vont gagner en quittant la CEDEAO et aussi vont perdre, parce qu'on sait que pratiquement quand on prend le Niger en matière même d'électricité, le Niger qui dépend du Nigeria à 70%, qu'est-ce qu'ils perdent et qu'est-ce qu'ils gagnent aussi?
Oui, mais ces pays-là, ils gagnent beaucoup de choses et ils le démontrent déjà. Aujourd'hui, les attaques terroristes et djihadistes ne sont plus récurrentes. Mais je voulais dire ceci, la CEDEAO n'est pas sérieuse. Je m'explique. Avant leur dernier sommet, cette même CEDEAO avait mandaté deux chefs d'État, notamment Faisal Zilang Yassingbé et Diomaye Faye, de mener des missions, de prendre langue avec ces trois pays-là pour qu'ils puissent revenir à la maison, oui. Si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que leur dernier sommet, à leur dernier sommet, ils n'ont plus fait cas de cette mission. Or, cette mission, certainement, avait travaillé et avait déposé son rapport sur la table des chefs d'État et de gouvernement. C'est la CEDEAO même, je dirais, qui a poussé ces trois pays-là à rompre définitivement le condom ou bien le contact avec elle. Vous mandatez des gens de faire un travail. Les gens font le travail, on vous dépose. Parce que si vous vous rendez compte, à ce sommet-là, Fon Yassingbé et Diomaye Faye ne se sont pas déplacés. Ils ont brillé par leur absence.
Voilà.
Et ça dit beaucoup de choses. Donc, c'est que nous-mêmes, on n'est pas sérieux. En tout cas, sur le continent, on se demande des fois qu'est-ce qu'on veut. Alors, aujourd'hui, ces messieurs, ces trois présidents-là, le capitaine Traoré,
le général.
Il a déjà élevé au rang de général. Alors, voilà, le général Traoré, le général Tiani.
Bon,
et
général capitaine Traoré, général Goïta et général
là vous me mélangez totalement.
Merci. Alors on va
aujourd'hui ils se frottent les mains et vous avez vu déjà que c'est des pays qui s'intéressent à eux. La dernière fois on a vu Fon Yassingbé dépêcher un émissaire spécial en la personne du ministre Pascal Bojona au Tchad. Germain a parlé tantôt du G5 Sahel, oui. Et ça dit beaucoup de choses, hein. Et après on a vu le premier ministre tchadien le lendemain juste ici. C'est vrai que ce qu'on nous a présenté officiellement n'a rien à voir de réelles discussions. Donc, il faut suivre les choses.
D'accord.
Donc,
il faut suivre, là, il faut suivre les choses. Nous allons rester toujours à l'extérieur pour parler de Goma. On prend la direction de Goma. Et j'en parlais même d'ailleurs dans mes mots introductifs par rapport à ce conflit entre le Rwanda ou entre les rebelles M23 et soutenu bien sûr par le Rwanda et la force républicaine en RDC. Mais finalement, quand on suit bien cette actualité, Germain, on se demande ben, comment se fait-il qu'une si grande nation comme la RDC est titillée par le Rwanda, si petit à côté d'elle.
Oui, ça c'est la grande question. Mais avant, permettez, comme je rebondisse un peu sur la pauvreté des pays de l'AES, parce que Firmin estime qu'ils sont très pauvres et tout ça. Non, on n'est pas pauvres en Afrique. Je ne parle même pas des minéraux, mais les hommes sont déjà une richesse, en plus de tout ce qu'on a dans le sous-sol africain. Donc on est riche, il y a plusieurs pays qui n'ont pas ça, qui sont plus développés que nous, c'est-à-dire que nous aussi on peut être à ce niveau-là. Maintenant, c'est la même chose aussi en RDC, c'est ce qu'il y a sous le sol là-bas, c'est toutes ces richesses-là aussi qui créent des problèmes à ce pays qui est assez vaste, qui a une armée de plus de 100
problème,
000 hommes.
Le problème de la RDC, c'est parce qu'elle est riche.
Elle est riche et vaste. Donc, c'est vrai que c'est plus de 100 000 hommes.
Qui fait la convoitise.
Mais en même temps, le pays n'est pas suffisamment quadrillé. Et puis, il y a une armée rwandaise qui soutient ce mouvement rebelle-là, qui est très, très bien équipée. On estime même que les Occidentaux soutiennent de manière directe ou indirecte ce mouvement-là. Et face à des soldats congolais qu'il faut dire aussi qui ne sont pas assez courageux, qu'ils ne font pas leur travail, parce qu'on voit que les combats sont un peu trop faciles. L'entrée du M23 se fait trop facilement aussi, il n'y a pas beaucoup de résistance, et donc on a comme l'impression que c'est une armée plutôt d'hommes d'affaires qui ne se mouillent pas le maillot au front, qui ne combattent pas. La prévision même mobilisée des volontaires. Donc, je crois qu'à l'époque, c'était plus de peut-être 40 000 volontaires.
40 000 volontaires.
Voilà, pour les appuyer malgré cet appui-là. Ça n'avance pas. Donc c'est assez inquiétant pour cette armée, mais en même temps, il faut dire que ce ne sont pas seulement les hommes qui font la guerre, mais ce sont les équipements. Et c'est de l'autre côté, le M23 et le Rwanda, l'armée rwandaise qui les appuie, en plus du soutien des Occidentaux, on parle beaucoup des Américains, des Français et des autres, donc qui ont tout intérêt à ce qu'une bonne partie de la RDC soit occupée pour que librement ils puissent nourrir leurs industries, donc à partir des matières premières de ce pays.
D'accord.
C'est
choix. Merci beaucoup. Alors, Damien, c'est vrai que, est-ce que vous arrivez à comprendre le fait qu'il n'y a absolument personne, aucun chef d'État même d'ailleurs, qui arrive à dire à Paul Kagame que, mais oui, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas du tout bien, et même le médiateur, l'Angola, finalement, n'arrive même pas à dire exactement ce qui se passe.
Eux aussi connaissent le problème. Sauf que, bon, vous savez, on ne parle pas à un chef comme ça devant le public. Hein. C'est vrai qu'en sourdine, il y aura des choses qui vont se dire, mais est-ce que Kagame reconnaît sa responsabilité? Parce que c'est quelqu'un qui dit et se dédie en même temps. C'est un homme qui aujourd'hui accepte de discuter avec Tshisekedi par rapport au règlement du problème. Et ensuite, il dit.
Il y a une rencontre même d'ailleurs entre les deux.
Entre les deux.
Et finalement, Tshisekedi a refusé.
Oui, parce que, bon, vous savez. À cette rencontre-là avec Ruto du Kenya, on sait très bien que tout ce que Kagame va dire, c'est que, bon, appeler M23 à la table de discussion. Ça a toujours été ce qu'il dit après toutes les rencontres qui avaient déjà eu lieu, même avec les sommités de la communauté internationale. Donc, à un moment donné, la solution viendra premièrement des Congolais. Aujourd'hui, la RDC, c'est un pays très divisé. C'est un pays qui n'a pas encore le sens de la nation. C'est juste un pays comme ça. Hein. Donc, aujourd'hui, si même ceux-là qui ont eu à occuper les routes fonctionnent dans ce pays-là, se retrouvent dans un camp rebelle, je vais prendre le cas de Corneille Nangaa, qui aujourd'hui est le leader de l'AFC Alliance du fleuve Congo, qui n'exclut pas la possibilité de venir déloger Félix Tshisekedi de son poste de président à Kinshasa. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont véritablement déterminés. Maintenant, il faut avoir une force de riposte et Félix Tshisekedi doit pouvoir trouver les alliances nécessaires pour arriver à riposter contre le M23 et les autres rebelles.
D'accord, merci. Fimé, quelle analyse vous faites alors de ce conflit à l'ex alors de la RDC?
Non, mon analyse est très simple. Vous savez, Tshisekedi se comporte comme Lumumba. Vous savez, Lumumba est arrivé, il croit que la RDC, à l'époque, c'était quoi? C'était pas le Zaïre. Non, c'était Congo, le Congo belge.
Congo belge, voilà.
C'était le Congo belge appartenait.
C'était ce Mobutu que c'est Zaïre.
Ouais, que c'était le Congo belge appartenait aux Congolais. Tshisekedi croit que le Congo, la RDC aujourd'hui appartient aux Congolais. Non, la RDC, 65% des richesses mondiales, plus 100 millions d'habitants. Ça n'appartient pas aux Congolais, ça appartient aux Occidentaux. Donc ce sont les Occidentaux qui font les jeux là-bas, ce sont des groupes d'alliance. Donc ils ne maîtrisent absolument rien, ils comprennent absolument rien. On peut avoir, c'est là où je vais décevoir un peu Gabin, à dire on peut faire venir toutes les alliances pour lui, ça ne marchera pas. Kagame, c'est un produit américain. Il sait, lui et les Américains savent comment le couloir, là, le goma est utilisé.
Mais personne. Le fuel de Bill Clinton.
Oui, le fuel de Bill Clinton. Personne ne maîtrise. Donc, tu sais que dit, il va crier, il va pleurer. Rien. D'accord. Mais il ne va se passer. Okay. Mais, il faut ajouter.
Oui, rapidement. Rapidement.
La chose là, il y a une autre chose qu'on ne dit pas. Kagame veut se débarrasser un peu de certains militaires. Parce qu'il veut toujours garder son pouvoir. Donc, il veut leur permettre d'aller aussi manger un peu là-bas dans cette zone de Gouma. C'est pour cela qu'il envoie une partie de son armée. Parce que Kagame, aujourd'hui, il est un peu contesté dans son clan. Les gens veulent le dégommer. Il se dit, mais ceux-là qui sont en train de le déranger, vaut mieux que vous vous rendiez à Gouma.
Non, c'est surtout parce qu'il est en train de préparer son fils pour prendre la relève. Donc, les gens voient ça de loin.
D'accord. Et Thierry, votre analyse sur le sujet?
Oui, je crois que Tshisekedi doit s'approprier ses propos, ses déclarations du ministre d'État en charge de la sécurité du Niger quand il disait il y a encore quelques jours que il y a trop de sous-traitance, qu'il faut se débarrasser des sous-traitances. Vous savez, Fiume dit Kagame peut être le fiole des Américains. Si Tshisekedi arrive à se débarrasser des sous-traitances et cherche d'autres partenaires, peut-être notamment la Russie, je crois que cette affaire-là serait réglée. Oui. On ne peut pas avoir une armée de plusieurs millions de soldats et qu'un petit pays, un petit groupe de rebelles menace tout un... Mais ça ne fait pas sérieux. Mais
tout un continent, alors
oui. Mais il faut réarmer les FRDC.
FRDC.
Mais c'est pas sérieux. Tshisekedi doit quitter les discours va-t-en-guerre et poser des actes concrets, des actes sérieux.
Ces discours même sont trop doux.
Mais il faut enlever peut-être des drones et autres là à l'armée congolaise pour faire face à ces bandits là qui se paient dans ce
pays. Merci, on va quitter le sujet, s'il vous plaît. On reviendra sur le sujet, il n'y a pas de souci. Mais je sais quand même qu'il y a nos auditeurs qui s'impatientent aussi à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Nous allons maintenant leur donner la parole sur nos deux numéros 90-86-35-35-91-36-63-75. Et aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels bien sûr vous pouvez réagir. Premier auditeur en ligne, allô?
Canal FM, bonjour.
Bonjour Oseni, comment vous allez?
Le message dedans. Je me porte très bien comme un ange au ciel. Je salue tout le plateau. Je vais aller à la RDC. Comment un pays aussi riche ne peut continuer l'embargo, acheter des armes de pointe, équiper l'armée et libérer son territoire sans l'aide de personne? Tshisekedi doit se revoir. Et enfin, voilà l'image de l'Union africaine qui forme des organisations lâches. L'AES a une raison. Donc, je vous remercie et bonne émission.
Merci beaucoup, Séni, pour votre intervention. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Gado.
Bonjour, Plateau.
J'espère que vous allez
vous
bien.
Vous savez, allez-y. RDC n'a pas d'armée. Même au temps de Mobutu, c'est le roi Assad qui lui a envoyé des soldats pour le sauver. Vous savez pourquoi elle n'a pas d'armée? C'est des gens qui boivent beaucoup, qui dansent beaucoup. Ils font trop la fête. C'est ça, c'est des fêtards. De toutes les façons, c'est leur président Mobutu qui avait importé cette animation chez nous. Heureusement que nous ne sommes pas comme eux. Mais ce qu'il y a, c'est que Tshisekedi va quitter le pouvoir. C'est une femme. Merci, bonne journée.
Bonne journée à vous aussi. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour.
Votre nom c'est?
Sylvain.
C'est Sylvain.
Oui.
Allez-y, Sylvain.
Bon, franchement, je ne sais pas, même quand on a raison, est-ce que c'est avec les armes qu'il faut régler? Je ne sais pas, qu'est-ce qui pousse le Rwanda à cautionner ce qui se passe en RDC. Ils sont dans leur palais. C'est ce que dit Kagame, les pauvres citoyens. Vous voyez comment les déplacements se font. Ça fait pitié, moi, quand je vois ça. C'est les pauvres, c'est le bas peuple qui souffre quand il y a ces gens de chez. C'est en Europe pourquoi on peut voir des choses comme ça. Quand ça a commencé avec la Russie et l'Ukraine, c'est juste au jour d'aujourd'hui.
Allô, Sylvain? D'accord, il est parti. 90, 86, 35, 35. Bonjour, le plateau. Après tous ces raisonnements de tes collègues, je ne suis pas d'accord avec eux car ce dernier a clairement déclaré qu'ils sont infiltrés. Alors, je ne peux plus continuer où se trouve son mal. C'est de la diversion de la part, bien sûr, des gens. Et c'est Boko ne veut pas alors la honte, selon moi. Et c'est mon point de vue. C'est Granger qui nous écoute, c'est son avis bien sûr, son point de vue. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom c'est?
C'est Gérard Sélassié.
Pardon?
Gérard Sélassié.
Gérard. Alors, vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Witi.
Witi, allez-y.
Sincèrement, Kagame me fait mal, quoi. Parce que ce petit Rwanda qui gêne tant le Congo. Sincèrement, nous sommes des Africains, mais je ne sais pas comment nous réfléchissons. Après, on va me dire que c'est la politique. Mais qu'est-ce que c'est la politique? Qu'est-ce que c'est? Mon frère, vous connaissez le militaire togolais? On connaît ce qu'on appelle ici soja. Mais les Congolais, c'est des danseurs, hein. C'est des ambianceurs. C'est pourquoi ce grand Congo, ça fait pitié. Merci.
Je remercie pour votre intervention. Bonjour. Allô?
Allô. Bonjour.
Madame Essie, bonjour.
Bonjour. Les coalitions. Depuis le code 1, code 2, dans une république qui a des lois, qui a une constitution en bonne et due forme, c'est pas normal, c'est pas correct. Et puis, c'est des coups d'État tous les jours qu'on nous fait ici. Et vous parlez du désert des gens du Sahel, c'est interdit dans la charte des soldats. Dans la charte des militaires, qu'un militaire n'a pas le droit de faire un coup d'État. C'est tout dedans. Il n'a pas le droit d'être intéressé par l'argent. Et c'est ce qu'on assiste. On assiste à ça dans toute l'Afrique. Ça veut dire quoi? Et puis, c'est des trucs, des guerres, des coups d'État, guerres insensées, dévastatrices. Regardez, le Soudan va disparaître. La FDC, des ressources insolentes, les multinationales vont s'affronter là-bas. Si c'est que Dieu a fait un mandat, ça suffit. Hein? Les Africains n'ont qu'à faire un mandat de 2 ou 3 ans, casterner pour qu'il n'y ait pas de djihadistes, de mécontents, de tout ce qu'on veut, pour que les dirigeants ne fassent pas la razzia au dépens des populations. C'est ce que je veux dire. D'accord. Et puis voilà.
D'accord. Merci, madame, ici, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 315. Allô? Allô, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Comment vous allez?
Ça va.
Abraham, d'accord. Oui, Abraham, il y a un bruit autour de vous. Je ne comprends pas.
Ah, d'accord.
Oui, il y a un bruit là. Oui, ça va mieux. Allez-y.
Ah, ouais, d'accord. Bonjour, le plateau.
Oui, bonjour.
Je me suis intéressé juste à le faire filmer, je crois, le journaliste.
Quand oui, 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 moi, je, moi, moi, oui, Abraham, je voudrais que vous vous intéressiez plutôt au sujet. Au sujet débattu, voilà.
Ce que vous avez parlé, effectivement. Mais je crois que quand il s'agit de la sous-région, monsieur ne veut pas de la vérité. Quand il s'agit des autres, il dit la vérité. Il a bien parlé du RDC et de ce qui se passe là-bas et tout. Oui, c'est bien. Mais ce qui se passe ici, dans la sous-région, comme la CDAO, il ne dit pas la vérité.
Oui, mais Abraham, moi je voudrais que vous. Oui, Abraham. Oui, je voudrais que vous, la vérité dont vous parlez, vous le dites, c'est ça.
Oui, donc je parle de la SE.
Parce que c'est la vie. C'est la vie de Firmin.
La SE a été créée. C'est une bonne chose. C'est très, très une bonne chose. Parce que ils veulent éviter l'impérialisme. Et pourquoi nous, on ne peut pas éviter l'impérialisme? On n'a qu'à parler de nous aussi pour quitter l'impérialisme.
Donc c'est ça. C'est ça la vérité.
Une bonne émission.
C'est ça la vérité, Abraham. D'accord, merci. Alors 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom c'est?
Cyprien. Cyprien.
Oui, j'espère que vous allez bien.
Je vais bien, merci.
D'accord, allez-y.
Bien, je voulais dire tout à l'heure, je crois que j'ai bien entendu par rapport à votre collègue Adjao, si je prononce bien le nom, qui parlait de Moa et puis de la CDAO par rapport à l'intégration économique. Je voulais juste dire, bon, puisque quelqu'un vient de parler de vérité, la communauté des États de la CDAO est au-dessus de vieux Moa. Et je suis content d'avoir entendu ce matin sur une des radios un journaliste qui disait que la CDAO joue au fair play. Parce que si la CDAO voulait faire mal, beaucoup de choses se passeront sur le continent. Voilà. Donc, quand on dit que l'UMOA n'a pas fait circuler la ES et tout ça là, la CDAO suffit juste de refuser un passeport étranger ou un passeport de la ES et puis ça serait bloqué. Personne ne peut circuler économiquement. Voilà. Donc, aussi, je voulais dire, il faut que les Togolais soient, que les journalistes togolais soient sérieux. Il ne faut pas que la CDAO seulement manque de sérieux, mais les journalistes togolais. On ne peut pas imaginer ce qui se passe dans les palais. Si vous ne le savez pas, ne dites pas. Monsieur Afano, merci.
Alors, merci Cyprien pour votre intervention. 90, mais on serait intéressé quand même par ce qui se passe alors dans les palais. Et si Monsieur Cyprien pourra nous le dire, ça me fera plaisir. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
Mais c'est monsieur, il y a un bruit autour de vous aussi.
Oui, j'ai diminué
le volume, voilà. C'est monsieur?
Allô?
Oui, votre nom c'est...
Monsieur Nicolas, j'appelle de Kégué.
Monsieur Nicolas, vous nous appelez de Kégué, allez-y.
Oui. Concernant le problème des MNL, de François Bocon.
Oui, allez-y.
Lui-même, il sait. Il sait que ce régime est autrement. Il peut tout faire. Aujourd'hui, quand vous regardez dans toute la composition de l'opposition, quand vous regardez, quelle que soit leur alliance, quelle que soit leur chose, comme ils ne se disent pas la vérité, Dieu les punit. Vers la fin, Dieu les punit en même temps. Donc, quand vous voulez nuire ce pays, les gens connaissent mal aussi ce pays parce que ce pays ne veut pas le sang. Les gens ont des mal intentionnés. Quand ils ont cette idée et ils se regroupent quelque part là, Dieu essaie de les écarter. Bon, concernant la RDC, c'est dommage que les Occidentaux sont derrière Kagame. Quand on divise RDC 100 fois, le Rwanda prend une partie. Parce que le Rwanda fait 25 000 km². On comprend mal comment ce petit pays-là va mettre en débandade toute l'armée congolaise. Donc, il y a les Occidentaux derrière. Et c'était comme ça aussi, ils avaient aidé Kabila à prendre le pouvoir. C'est la même chose qui veut arriver.
D'accord. Bon, merci beaucoup, Nicolas. Et Nicolas, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Mais je lis rapidement cette réaction. Bonjour, le plateau. L'entrée du Togo dans l'AES n'est pas un souci pour moi. Mais la question que je me pose est de savoir comment le Togo va se comporter dans cette alliance avec sa 5e République face à des pays dirigés par des militaires qui n'ont rien à voir, avec la Constitution. C'est bien sûr un auditeur, c'est Harry depuis Adido Gomé qui nous a écrit. Alors, chers confrères, nous revenons en plateau pour un dernier tour de table et avant de mettre fin à cette émission de ce vendredi, dernier jour même d'ailleurs de ce mois de janvier. Germain, vous avez écouté les uns les autres sur les différents sujets débattus et des gens se sont intéressés plus également à la RDC.
Oui, à la RDC, moi c'est plutôt la dernière réaction sur le Togo et l'AIS. On en a parlé un peu la semaine dernière, mais il y a des raisons économiques et des raisons sécuritaires qui font que le Togo peut adhérer à l'AIS. Parce que déjà, sur le plan économique, vous savez tout ce que ces pays enclavés peuvent rapporter au Togo à travers le port, à travers les transactions commerciales. Et pour la lutte contre le terrorisme, ces trois pays ont atteint quand même un niveau de sécurisation de leur territoire qui peut également nous être bénéfique. Et puis la collaboration, parce que c'est une lutte, c'est lutter contre un phénomène tentaculaire. Donc il faut beaucoup collaborer aussi avec ces pays. Là, je crois pour ces raisons, le Togo et puis après le Ghana qui a suivi pratiquement l'interview du ministre des Affaires étrangères du Togo, le président du Ghana qui a nommé un envoyé spécial à l'AES, c'est-à-dire que plusieurs pays de la CEDEAO s'intéressent à l'AES qui reste avant tout, à mon avis, un regroupement basé d'abord sur les intérêts sécuritaires, après sur les intérêts économiques parce que après, il y a aussi une idéologie derrière, c'est la souveraineté de nos États. Donc, ces trois militaires-là passent un peu pour les chantres de ce panafricanisme-là, de ceux-là qui... Et on voit qu'un président comme celui du Togo a été pendant longtemps en minorité au sein de la CEDEAO parce qu'il tenait une position qui aujourd'hui lui donne raison. Maintenant, d'accord, est-ce que le Togo va y adhérer? On attend de voir. Et bon.
Ok. Merci. Oui, Gabin.
Oui, j'aimerais éclairer un peu la lanterne de M. Cyprien. Quand il parle du fait que ces pays-là, les pays de l'AES, hein, les habitants ne peuvent pas circuler librement au sein de la CEDEAO, ça me fait rire. Parce que vous savez, avant la CEDEAO, les passeports existaient ou pas? Les passeports existaient. Ça veut dire que ce n'est pas la CEDEAO qui émet les passeports. Ce sont les États qui émettent les passeports et après, ça appartient à une communauté sous-régionale. Maintenant, c'est à chacun des États d'accepter un habitant ou pas dans son pays. Ce n'est pas à la CEDEAO de décider. Donc, si moi, aujourd'hui, je décide d'aller au Bénin et que le Bénin constate que, bon, je ne suis pas un citoyen parce qu'à un moment donné, on refuse même l'entrée sur un territoire à quelqu'un qui a un passeport de la CEDEAO dans l'espace CEDEAO. Donc, à un moment donné, il faut être assez conséquent et lui dire aussi qu'il y a une certaine différence entre l'UMOA et la CEDEAO. La CEDEAO, c'est une organisation politique, alors que l'UMOA, c'est une organisation économique. Ce n'est pas la même chose.
D'accord. Fermé.
Moi, je voudrais conclure en disant que il faut que nous arrivions à oublier cette histoire de libération de l'Afrique et autres. Il faut que nous libérions, oublions ça, panafricanisme, oublions ça. Vous imaginez, à l'Ouest...
Là, vous n'y croyez pas?
Non, moi, je n'y crois pas du tout. À l'Ouest, il y a des gens qui crient à l'Ouest. Et de l'autre côté, il y a des gens qui demandent aux Occidentaux de les soutenir pour piller, pour détruire le pays de l'autre, leur frère. Je parle de la RDC. Vous voyez, au Gabon, par exemple, il est soutenu par la France. Donc, vous imaginez, donc, cette histoire de libération, il faut qu'on l'oublie et qu'on se consacre au travail. Travaillons pour libérer l'Afrique. Libérer. Moi, je parle de la lutte contre la pauvreté. Travaillons pour nous rendre beaucoup plus prospères. Travaillons pour avoir des méga structures. Travaillons pour avoir un peuple digne en Afrique. Sinon, cette histoire de libération contre la France et ainsi de suite, c'est du pipeau. Il faut oublier ça parce que ça ne nous permet pas véritablement d'avancer.
D'accord, Thierry. Réaction?
Non, je n'ai plus de réaction. D'accord. Donc, je crois que les Congolais doivent se ressaisir, doivent se réveiller pour faire face à ces rebelles-là, les chasser de son territoire et pour que la RDC redevient donc la RDC.
D'accord. Merci beaucoup Thierry Afanoukoué d'être passé alors dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal en ligne Gapola. Merci d'être passé. Merci à Germain Pouli d'être passé dans cette émission. Vous êtes le directeur de publication du journal Togo Réveil. Gabin Adaro, merci d'être passé dans cette émission. Vous êtes juriste, vous êtes même un analyste politique aussi. Merci d'être passé alors dans cette émission. Firmé Teko Agbo, merci d'être passé aussi dans cette émission. Vous êtes chroniqueur et aussi vous collaborez avec beaucoup de journaux. Merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous pour animer cette émission. Vous qui nous avez suivis, merci à vous. Vous qui nous avez appelés aussi, grand merci à vous pour votre contribution à ce débat. Michel Tomega était à la mise en onde. Gérard Akuta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lessou et je vous retrouve lundi à partie de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et vous passez un bon week-end. Au revoir.